Les podcasts du Collège de France, Histoire.
On m'a demandé de dire un mot avant de commencer de ces questionnaires qui sont à votre disposition à l'entrée de la salle. On m'a demandé de vous préciser ce que vous avez pu voir, que ces questionnaires sont tout à fait anonymes, donc on ne vous demande rien sur vos coordonnées. Et d'autre part, d'insister sur le fait que c'est une enquête purement interne au Collège, et non pas du tout une enquête administrative qui nous aurait été demandée par nos autorités de tutelle. Donc c'est une enquête qui fait suite en fait à une enquête sur Internet qui a déjà été bouclée, analysée, sur les gens qui consultent le site du Collège. Et donc l'Assemblée des professeurs a voulu avoir de la même façon une image un peu plus précise du public physique du collège, donc des gens qui viennent au cours. Et donc c'est la raison de ce questionnaire qui ne concerne que les professeurs et leur public et non pas du tout l'administration. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, et nous le souhaitons beaucoup, le remplir à la fin du cours et le laisser, je crois qu'il y a une urne où vous pourrez le déposer. Donc j'avais annoncé à la fin de mon premier exposé, deux choses. La première, c'est que
les podcasts du Collège de France, Histoire.
Cette année sera consacrée à l'examen de certains événements importants dans l'histoire de la transition des Ming au Qing au Tiangnan, donc dans le Baiyangtze, basé sur des documents autobiographiques et sur les témoignages dont j'ai rappelé la nature il y a 8 jours. Plus précisément, j'avais annoncé que je parlerais des calamités naturelles qui dévastent la région comme elle ne l'avait jamais été de mémoire historique au début des années 1640, donc juste à la veille de la conquête mandchoue. Ensuite, je parlerai de la façon dont les populations locales, toutes classes confondues, se sont comportées pendant la dite conquête. Et enfin, je proposerai une reconstitution et une réinterprétation de la visite de l'empereur Kangxi de la dynastie des Qing, donc à Suzhou, qui est la capitale culturelle, en tout cas, du Tiangnan, en 1684, un événement hautement symbolique et aussi une opération de relations publiques très réussie, dont je vous avais dit qu'elle marquait, d'une certaine manière, la fin de la transition entre les Ming et les Qing, en ce sens qu'elle mettait en scène la réconciliation entre le nouveau régime, donc entre les Mandchous, et la population, et encore une fois, toute classe confondue, d'une des régions qui avait eu le plus à souffrir de la présence des nouveaux maîtres de la Chine pendant les premières décennies des Qing. Et la deuxième chose que j'avais annoncée, c'était que, avant d'aborder cela, je souhaite consacrer un moment, et en fait ce sera deux semaines, au cas particulier d'une autobiographie de la fin des Ming qui m'est apparue comme un texte d'un intérêt exceptionnel aussitôt qu'il m'a été possible de le consulter, c'est-à-dire il y a un petit nombre d'années, en fait. Pourquoi exceptionnel? Eh bien, parce qu'il combine d'une façon qui me semble exemplaire les deux aspects distinctifs de ces nouveaux écrits autobiographiques datant de la transition Ming-Qing, dont j'ai parlé la dernière fois. Je veux dire, d'une part, la liberté avec laquelle l'auteur de ce texte parle de lui-même, ou dirais-je, s'examine lui-même, et comme je le notais, se pose de sérieuses questions sur son envie réelle de consacrer son temps et de dépenser son énergie, ou en tout cas l'énergie qui lui reste, à une carrière de fonctionnaire. Nous avons donc là une belle illustration de la tentation de l'érémitisme, du repli sur soi, souvent exprimé à cette époque, dont j'avais dit un mot la semaine dernière. Et le second aspect, c'est la façon très objective et même très détachée dont il décrit la vie politique à laquelle il a été mêlé, bon gré mal gré, et aussi, je dirais même surtout, la façon dont il décrit la situation administrative et militaire de l'Empire à ce moment, enfin pendant ses fonctions, situation qu'il s'est trouvé en position de constater de première main et dans plusieurs régions importantes, en particulier sur la frontière nord-est et sur la côte du Fujian. Et dans plusieurs régions importantes. En d'autres termes, c'est l'aspect témoignage, ou comme je l'avais rappelé, l'aspect choses vues et entendues, tianwen, auquel on a affaire dans ce cas-là, Et ce témoignage se révèle particulièrement intéressant sur l'état d'esprit qui régnait dans les années 1620, à une époque où le sentiment de crise dynastique commençait à gagner les esprits. Et c'est donc de tout cela que je vais parler aujourd'hui et la semaine prochaine. Ce texte, je l'avais brièvement annoncé il y a 8 jours, ce texte, c'est donc l'autobiographie chronologique d'un certain Xu Zhetiao, né en 1574 et mort en 1600. Mon fil s'accroche, et mort en 1631. Et. Et donc une autobiographie de. Je réécris son nom. Et je note au passage, si le format même de l'autobiographie chronologique n'est pas propre à la fin des Ming, ou ni même à la transition entre les Ming et les Qing, il n'en semble pas moins avoir connu une vogue particulière pendant cette époque. Et de nouveau, beaucoup plus tard, au XIXe siècle. Mais de ça, je parlerai une autre année. Il est d'ailleurs difficile de dire pourquoi. Sinon, peut-être que c'est une forme qui permet de parler en longueur de soi-même et de tout ce qui vous concerne et vous préoccupe. En effet, la trame strictement chronologique, on a en quelque sorte des cases annuelles à remplir d'informations, qui est la définition même du format des Nianpu, donc des autobiographies chronologique ou des biographies chronologiques en général. Donc d'une part, cette trame strictement chronologique et d'autre part, le côté, on pourrait dire, base de données biographiques, si vous voulez, du genre, me semble autant de bonnes raisons pour avoir été autant de bonnes raisons pour les auteurs pour ne pas hiérarchiser les choses. Je veux dire, pour ne pas donner l'exclusivité aux événements considérés comme plus importants historiquement ou comme mettant le mieux en valeur le sujet, donc l'auteur de l'autobiographie, ou simplement parce que ces événements sont édifiants, ou ces données, disons, données mises en autobiographie, sont édifiantes et correspondent au canon de l'honorabilité lettrée. Et donc, dans une autobiographie chronologique, on n'a pas peur d'empiler les détails, je dirais. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Nianpu, qui soient biographiques ou autobiographiques, sont parfois des textes extrêmement longs. J'ajoute que les autobiographies chronologiques entretiennent des rapports évidemment étroits avec les journaux que tenaient beaucoup de lettrés et qui, par définition, énonçaient les choses au jour le jour, ou en tout cas au fur et à mesure qu'elles se présentaient, même si tous les jours n'étaient pas remplis, et telles qu'elles étaient perçues, si je puis dire, en temps réel. Et de fait, l'auteur de la biographie de Xu Zhetiao, une courte biographie qui précède le texte proprement dit, et qui est pour l'essentiel une sorte de résumé, cet auteur, qui est un disciple dont le nom importe peu, affirme que Xu Zhetiao notait systématiquement tout ce qu'il faisait, et que c'est sur la base de ces notes qu'il a donc composé son autobiographie à la fin de sa vie. Cette autobiographie de Xu Zhetiao est donc structurée de façon chronologique, ou annalistique, comme on dit parfois. C'est un texte très long, d'une longueur que n'atteignent jamais et de loin les autobiographies de format classique. Il n'est pas découpé en chapitres, c'est-à-dire en yuan, mais en revanche, chaque année, qui est désignée à chaque fois par ses caractères cycliques, constitue l'équivalent d'un chapitre avec une pagination séparée. C'est ça qui marque en effet l'équivalent d'un chapitre. Et il y a donc 22 de ces pseudo-chapitres qui couvrent la période de 1610 à 1631, inclus, jusqu'au milieu de 1631, puisque c'est l'année où meurt Xu Zhetiao. Le titre complet de l'ouvrage est « Zhen Shuai Xian Sheng Nian Pu ». Donc, « Nian Pu », et bien sûr le mot générique pour les biographies chronologiques, et Zhen Shuai, voici, qui signifie littéralement, et Xian Sheng, ça veut dire monsieur, pardon. Voilà, Zhen Shuai, donc, Donc ce titre signifie quelque chose comme chronique de l'apprentissage. Non, pas, excusez-moi, pas Nien Phu, je suis époux. Je suis en train de... Voilà, chronique de l'apprentissage de Monsieur Chen Shuai. Et on trouve aussi le titre simplement Xu Zi, Xu époux, c'est-à-dire chronique de l'apprentissage de Monsieur Xu. Et pour la communauté, j'appelle simplement le Xu époux. Chen Shuai, dans ce titre, dans le titre complet, signifie franc ou sincère. Et il faut croire que c'était un des surnoms de Xu Zhetiao, puisque tous les lettrés possédaient un ou des surnoms d'usage social, disons, supposés se référer à quelques traits de leur personnalité ou à quelques particularités de leur vie. Par exemple, c'était souvent le nom de leur jardin ou de leur studio, etc. Je ne sais pas s'il faut voir dans ce nom de Chen Shuai une allusion à la société des gens sincères, la Chen Shuai Hui, qui était une sorte d'amicale formée autour du célèbre homme d'État des Song du Nord au XIe siècle, Sima Guang. Lorsque Sima Guang s'était replié à Luoyang après avoir été évincé du gouvernement. À l'époque de Xu Zhetiao, donc au début du XVIe siècle, du XVIIe siècle, les membres du mouvement Donglin, dont j'ai parlé la dernière fois, fourniraient un assez bon parallèle à cette opposition repliée à la campagne. Mais en fait, on n'a pas d'indication que Xu Zhetiao ait particulièrement été en rapport ou en sympathie avec eux. Autrement dit, je ne suis pas sûr du tout que dans ce surnom, il y ait la moindre allusion à l'amicale, au groupe des amis de Sima Guang. Dans tous les cas, l'autobiographie de Xu Zhetiao, qui est techniquement parlant donc un Nien Phu, est appelée, je m'étais même trompé en l'écrivant, est appelée Xu époux, c'est-à-dire, encore une fois, la chronique d'un apprentissage. Donc il faut se poser la question de savoir de quel apprentissage il s'agit. Et à en juger par le contenu du texte, je dirais que le mot « xue » ne désigne pas ici les études des lettrés confuciens, c'est-à-dire leurs activités, les activités d'érudition qui étaient leur spécialité, mais bien plutôt l'apprentissage de la vie, et plus particulièrement l'apprentissage de la vie publique et de toutes ces choses trappes, celui de la mentalité et des comportements, pas toujours très admirables, du milieu des fonctionnaires, et aussi celui de l'attitude qu'il convient d'adopter pour préserver son intégrité et aussi pour accepter avec équanimité les revers de carrière et les désillusions. Je l'ai dit, le Xu époux est un texte d'une extrême liberté de ton. Il n'est jamais polémique, on pourrait le décrire comme distancié d'une certaine façon, mais il est toujours très direct, aussi bien à propos de l'auteur lui-même que de son environnement social et professionnel. Or, contrairement à d'autres écrits autobiographiques de la même époque, ou d'époque plus tardive, au XIXe siècle notamment, se signalant eux aussi par une grande liberté de ton, contrairement à ces textes, donc, le Xu époux est un texte imprimé. Il n'est pas resté à l'état de manuscrit conservé dans la famille. J'avais d'ailleurs rapidement fait allusion à ce propos au Xu époux l'année dernière, à propos donc de cette question de la publication ou de la non-publication des documents à la première personne et de ce qu'on peut en conclure en ce qui concerne les intentions de l'auteur. Les indications que contient l'ouvrage lui-même permettent de s'en faire une certaine idée de ses intentions. Le disciple et admirateur de Xu Zhetiao, à qui on doit la préface, l'ouvrage a une préface, dit dans cette préface qu'il a réussi à voir le texte pour la première fois lorsque un des fils de Xu Zhetiao était venu lui rendre visite. Il arrivait donc de Quzhou. Quzhou est une préfecture qui se trouve, c'était le pays natal de la famille c'est une préfecture qui se trouve dans l'intérieur montagneux de la province du Zhejiang. Donc, ce fils arrivait de Quzhou et il était plongé dans un texte qu'il a fini par accepter, non sans difficulté, de montrer à son hôte. Et ce texte, c'était le Xu époux. Le disciple insiste pour écrire une préface après avoir consulté ce texte et l'avoir admiré. Et il affirme d'ailleurs être le mieux qualifié pour écrire cette préface, car nul n'a mieux connu que lui les aspects privés et publics de la vie de son mentor. Et là vient le détail intéressant. Sujetiau en personne fait savoir alors qu'en fait, il ne voulait pas que son texte ne sorte, il emploie le mot « chou », c'est-à-dire qu'il ne soit publié et qu'il ne circule, avant 15 ans. Mais que maintenant que son fils l'a montré à quelqu'un, on ne peut plus le cacher, et là il emploie aussi un mot très fort, « ni hein, », le camoufler, et que donc c'est d'accord pour la préface, à condition que l'auteur de cette préface s'en tienne strictement à la vérité. Autrement dit, et c'est ce qu'aurait dit Sujetiau, autrement dit, ne rien ajouter à sa personnalité, mais aussi ne rien en retirer. Autrement dit, Sujetiau était encore en vie au moment de cette préface. Et il l'était toujours lorsque son disciple a rédigé, en effet, la préface, laquelle est datée du 15e jour du premier mois lunaire de l'année 1631. Je n'ai pas fait l'effort de chercher quel était le mois dans notre calendrier, le jour dans notre calendrier, mais à vrai dire, ça n'a pas d'importance. Sujetiau est mort le 5e jour du 7e mois de cette même année. Et la dernière entrée du Suépu, qui est très courte, est datée de 10 jours plus tôt. Sujetiau dit dans cette entrée qu'il est trop malade pour accepter la belle promotion qui lui a été annoncée un peu avant et qu'il vient d'envoyer une lettre où il demande à être déchargé de ses fonctions. Et le seul fait qu'il y ait cette entrée datée donc de 10 jours avant sa mort et plus toute une série avant prouve que Sujetiau a continué d'ajouter à son manuscrit et ses dernières entrées ont vraiment la forme de notes prises au fur et à mesure d'ajouter à son manuscrit plusieurs mois après que son disciple ait rédigé une préface sur la base du manuscrit que le fils de Sujetiau transportait avec lui et dans lequel, nous est-il dit, il était quotidiennement plongé. Tout ceci suggère donc un texte destiné d'abord à instruire et édifier la descendance de l'auteur. Et d'ailleurs, l'entête du premier chapitre porte les noms des trois fils, survivants, parce qu'il y en avait un quatrième qui était mort jeune, donc des trois fils de Sujetiau, suivi du mot « dou », qui signifie « lire », « lire un livre ». C'est donc leur lecture, et je comprends cela comme signifiant que ce texte a été composé par Sujetiau pour que ses fils le lisent, et d'abord eux, même s'ils n'excluaient pas, on l'a vu, que le texte puisse un jour tomber dans le domaine public, tout en préférant que ce ne soit pas trop tôt, peut-être à cause de toutes les allusions à des personnalités contemporaines qu'on y trouve. Mais finalement, nous l'avons vu, Sujetiau a accepté le principe de la publication, et le Suépu a été préparé pour cela par ce même fils, qui était son fils aîné survivant, disons, en 1633, la date est donnée à la fin du texte et les planches d'impression ont probablement été gravées tout de suite après. Cela étant, si le Suépu a été donc imprimé, il ne semble pas qu'il ait eu beaucoup de diffusion, pour dire le moins. C'était à l'évidence ce qu'on appelle, en jargon disons sinologique, une édition familiale, c'est-à-dire une édition dont les planches d'impression avaient été gravées dans la famille, c'est-à-dire à la maison, par des ouvriers invités pour ça, et qui était destiné à des proches ou à des connaissances, et qui était tiré, surtout, c'est ça qu'il faut bien savoir, c'est que publier, ça veut dire d'abord graver les planches, mais ensuite on tire en papier seulement au fur et à mesure de la demande, et qui était donc tiré au fur et à mesure des demandes venues d'amis ou d'admirateurs. Et la rareté de ce texte imprimé est sans doute la raison pour laquelle le titre, cet ouvrage, est absent des index des ouvrages prohibés à l'époque des Qing, donc des Qinshu, des livres interdits, alors que son contenu l'aurait certainement destiné à ce sort s'il avait été repéré par les limiers du gouvernement chargés de pourchasser tous les écrits susceptibles d'offenser la susceptibilité des Mandchous. C'est ce qu'on a appelé l'inquisition littéraire, ce qu'on appelait en anglais d'abord l'inquisition littéraire à l'époque des Qing, laquelle date surtout du XVIIIe siècle. D'ailleurs, Sujetiau est également l'auteur d'un traité sur la défense des frontières qui, lui, a été dûment prohibé. Et de même, il est beaucoup question des frontières dans l'autobiographie, comme on le verra la semaine prochaine. Et enfin, ce texte a été prohibé. Il en reste, je crois, un seul exemplaire survivant. Enfin, dernier indice de rareté, il ne subsiste justement de l'autobiographie de Sujetiau aujourd'hui qu'un seul exemplaire, autant que je sache, conservé à la Bibliothèque nationale de Taïwan. Cet exemplaire, en fait, faisait partie de la collection d'ouvrages rares de la Bibliothèque de Pékin, ou plutôt de Beiping, comme s'appelait Pékin à cette époque, d'ouvrages rares qui ont été mis en caisse juste avant l'invasion japonaise pour être envoyés à l'abri à la bibliothèque du Congrès à Washington. Et par chance pour nous, enfin pour les chercheurs, lorsque cette collection a été restituée à la République de Chine en 1965, autrement dit à Taïwan, puisque c'était la Chine légitime, c'était encore à l'époque la Chine légitime, lorsque la collection a été restituée donc à Taïwan, on en a fait un microfilm intégral, un microfilm dont on trouve des copies dans un certain nombre de grandes bibliothèques occidentales, mais pas en France malheureusement. Et c'est ainsi que j'ai pu en faire un tirage complet à l'université de Princeton, pour être précis, où les tirages sur photocopie sont gratuits, un exemplaire que je conserve précieusement et sur lequel donc je travaille. Je m'en suis d'ailleurs servi de cet exemplaire pour parcourir le texte et en étudier certains épisodes dans une série de séminaires à l'École des hautes études en sciences sociales, enfin mon séminaire de l'ES, en 2003. C'est un texte très long, comme je l'ai dit, et c'est un texte aussi assez difficile. Et c'est bien pourquoi j'ai décidé de le revisiter aujourd'hui, à la fois pour le reconsidérer dans la perspective des exposés que je suis en train de faire, et aussi pour en profiter pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes qui restaient pendants. J'en ai résolu quelques-uns, mais pas tous. J'avais fait allusion au Xuepu de Xu Zhetiao dans mon cours de 2001, mais c'était alors avant d'avoir pu mettre la main sur le texte lui-même. Et ce que j'en avais dit à ce moment était entièrement basé sur les quatre pages, ou trois ou quatre pages, je crois, qui lui sont consacrées dans le livre de Pei Wu, consacré à l'autobiographie confucienne, un livre que j'ai très souvent cité l'année dernière, qui s'appelle The Confucian Progress, donc la carrière des Confuciens. Et la description que donne Pei Wu de l'autobiographie de Xu Zhetiao n'est pas très satisfaisante, à mon avis, ou plutôt, elle est insuffisante, comme je m'en suis donc rendu compte après avoir moi-même pu voir le texte. Pei Wu dit en effet que le Xuepu est un texte dont le principal contenu est la chronologie de la carrière officielle de son auteur. Et il ajoute même, un peu curieusement, que ça se lit comme un curriculum vitae, alors que ça n'a vraiment rien à voir. Et que c'est même contradictoire avec les quelques éléments que Pei Wu lui-même donne par ailleurs sur le caractère réflexif et introspectif de l'ouvrage. Et il ajoute d'ailleurs, et ça il est bien placé pour le savoir puisqu'il a fait ses recherches, il ajoute d'ailleurs que cette tendance à l'introspection ne se rencontre que rarement dans les autobiographies chronologiques. Il semble d'ailleurs impliquer, je parle toujours de Pei Wu, que si réflexion et introspection il y a, c'est dans ce texte de Xu Zhetiao, c'est à propos des hauts et des bas de sa carrière, de ses expériences dans le milieu bureaucratique, alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus que cela. En tout cas, la description de Pei Wu m'avait donné à penser qu'avec le Xuepu, on aurait un bel exemple de ce que j'ai appelé des autobiographies professionnelles, c'est-à-dire des autobiographies de fonctionnaires dédiées à leur vie professionnelle, et un exemple d'autant plus intéressant que toutes les autobiographies professionnelles que je connais datent de l'extrême fin du XVIIIe siècle et surtout du XIXe. C'est un fait que l'autobiographie de Xu Zhetiao coïncide exactement avec sa carrière. Elle s'ouvre, en effet, l'année où il réussit à l'examen du doctorat et où il obtient son premier poste, c'est donc en 1610. Et comme nous l'avons vu à l'instant, elle se clôt avec l'envoi de sa lettre de démission quelques jours avant sa mort. Plusieurs autobiographies professionnelles rédigées au XIXe siècle commencent de la même façon, c'est-à-dire avec l'entrée dans la carrière. Et il est très possible que le fait de commencer son autobiographie avec sa première nomination était une décision délibérée de la part de Xu Zhetiao. En tout cas, on a du mal à s'imaginer qu'il avait attendu ce moment pour prendre des notes et tenir son journal, autrement dit pour avoir la base factuelle permettant ensuite de rédiger une autobiographie. Quoi qu'il en soit, si l'exercice de ses fonctions et, si je puis dire, si ses aventures en bureaucratie occupent une grande place dans le texte de Xu Zhetiao, et après tout c'était son métier, on y trouve aussi énormément de choses sur sa vie extra-professionnelle, familiale notamment, ainsi que sur sa fréquentation très assidue des monastères et ses entretiens avec des moines bouddhistes éminents. Et on y trouve de très longs passages consacrés à ses activités privées pendant les périodes où il n'était pas en fonction, soit qu'il se trouve entre deux postes, soit qu'il ait obtenu un congé, soit encore qu'il ait été renvoyé de l'administration, comme ce sera le cas pendant un certain temps, enfin pendant quelques années, dans les années 1620. Et surtout, ce qui me dissuade de parler du suépoux, en fin de compte, comme d'une autobiographie professionnelle, c'est que la profession de fonctionnaire, en dépit de la place qu'elle a tenue dans la vie de Sujetiau, pendant les 22 années couvertes par le texte, que la profession de fonctionnaire n'est pas pour lui l'alpha et l'oméga, comme elle l'est dans les ouvrages du milieu des Qing, auxquels j'ai fait allusion. Autant il semble s'être voué à ses fonctions avec une extrême conscience et une réelle efficacité, et en avoir tiré beaucoup de réputation, autant il est impossible de ne pas voir qu'il maintient toujours une certaine distance, qu'avoir des ennuis de carrière n'est pas un drame pour lui, et que ses préoccupations spirituelles occupent au moins autant son esprit que ses inquiétudes concernant le sort de la dynastie des Ming, dont il est bien placé pour constater la fragilité dans le domaine militaire en particulier. Je développerai en fait ces points plus tard, ces aspects, disons, plus intimes ou plus privés du parcours et de la personnalité intellectuelle de Sujetiau, toute chose que, encore une fois, son autobiographie révèle avec ce qui semble être une réelle spontanéité. Ce que je m'apprête à faire d'abord, c'est de vous exposer au moins les grandes lignes de sa carrière publique, puisque aussi bien c'est elle qui a structuré son parcours et son évolution intellectuelle pendant cette partie de sa vie, et que c'est par rapport à elle, par rapport à sa carrière, que s'est fait l'apprentissage qui a donné son titre à l'ouvrage. Et chemin faisant, je mettrai en évidence un certain nombre de faits et de développements sur lesquels l'autobiographie de Sujetiau a beaucoup de choses intéressantes et originales à nous apprendre, autrement dit, un certain nombre d'éléments qui intéressent l'histoire de la fin des Ming en général. Il vaut la peine de signaler au passage que notre seule source sur la carrière de Sujetiau, c'est l'autobiographie elle-même, ainsi que, accessoirement, la biographie résumée qui la précède et qui ajoute quelques notations, à vrai dire très peu de choses, sur la vie de Sujetiau avant son entrée dans l'administration et sur sa famille. Il se trouve en effet que s'il a eu une carrière bureaucratique plus qu'honorable et qu'il a amené à être le proche collaborateur de plusieurs personnages importants, Sujetiau n'a malgré tout pas laissé son nom dans l'histoire avec un grand H. Il n'est mentionné qu'une seule fois dans l'histoire dynastique des Ming, donc dans le Mingshi, et il est mentionné de façon tout à fait passagère dans la biographie d'un personnage avec qui il avait été en conflit à un moment où il n'occupait en fait qu'un poste tout à fait modeste, et ce personnage a réussi à le faire destituer, et c'est donc ça qui est signalé au passage dans le Mingshi. Et j'ajoute qu'on ne possède pas de biographie privée de Sujetiau ou d'inscriptions funéraires ou de ce genre de matériaux qui permettent, en étant confrontés l'un à l'autre, de retrouver quelques faits et de combler quelques lacunes. Quoi qu'il en soit, la première chose à dire est que cette carrière a commencé relativement tard, même si on a des exemples de carrière qui commencent beaucoup plus tard. Lorsqu'il finit par réussir l'examen du doctorat, donc l'examen métropolitain à la capitale, qui se partage en un examen donné par le ministère des Rites et un examen de confirmation qui est théoriquement donné par l'empereur en personne. Donc, quand il finit par réussir le doctorat, en 1610, Sujetiau a 34 ans. Nous n'avons guère d'idée du parcours qu'il a suivi pour arriver là, sinon quelques vagues allusions dans la biographie de ce qui précède son autobiographie, quelques vagues allusions à son extrême talent littéraire, mais c'est un lieu commun, et aussi de vagues allusions au fait qu'il se serait retiré dans les montagnes pour étudier, au milieu des bêtes sauvages, dit même la préface. Mais il est impossible de savoir ce qui se cache derrière ces formules. Ce n'était pas, évidemment, en vivant en ermite, bête sauvage ou pas, qu'on franchissait l'obstacle redoutable de l'examen provincial, et il ne nous est dit nulle part à quel âge Sujetiau l'a passé, et qu'on parvenait en fin de compte à cette apothéose du parcours académique qu'était la réussite au doctorat. Je disais que Sujetiau est entré dans la carrière relativement tard. Or, nous savons par ailleurs qu'il a essayé de se rajeunir. L'autobiographie n'en dit bien sûr rien, mais j'ai découvert ce détail curieux et intéressant dans un ouvrage récent d'un historien chinois, un certain Chen Changwen, dont je ne connaissais pas le nom avant. Un ouvrage qui est consacré, qui est paru en 2008, je crois, enfin, j'en suis même sûr, et qui est consacré au système des examens à l'époque des Ming. Donc, dans cet ouvrage, il y a un chapitre où il est question de cette pratique illégale de ce qu'on appelait l'âge de fonctionnaire, c'est-à-dire Guanyin. L'âge de fonctionnaire, entre guillemets, qu'on pourrait aussi traduire par âge officiel, c'était l'âge que les candidats s'attribuaient à eux-mêmes dans le dossier qu'ils devaient déposer pour pouvoir concourir. Et apparemment, une proportion non négligeable d'entre eux se donnait pour moins âgés qu'ils n'étaient en réalité, et parfois même beaucoup moins âgés. Pourquoi donc cette propension au rajeunissement, dont j'ignorais d'ailleurs l'existence, et qui apparemment n'était pas particulière aux Ming? Eh bien, d'après Chen Changwen, cela s'expliquerait, entre autres choses, par le fait que depuis l'époque des Song, où cette pratique est mentionnée pour la première fois, c'était simplement considéré comme plus chic de remporter des succès quand on est jeune. Et une autre raison, en tout cas à l'époque des Ming, pourrait être qu'il y avait des limites d'âge pour certains recrutements hautement désirables pour les nouveaux docteurs, par exemple pour être recruté à l'Académie Hanlin, qui était vraiment le haut lieu du pouvoir bureaucratique lettré à Pékin, ou encore au censorat. Quoique, on n'entrait jamais directement au censorat après l'examen, mais parfois très vite après un premier poste. En tout cas, ces âges fictifs qui apparaissaient donc dans les listes officielles de lauréats, ce qu'on appelle les Dunkeloo, se retrouvaient également dans diverses sortes de documents qui jouaient un rôle important dans la vie sociale de l'élite bureaucratique, par exemple des listes de membres d'une même promotion, les Tongyen, les gens de la même année, ou encore les annuaires de la fonction publique qui étaient publiés régulièrement sous les Qing, plusieurs fois par an, sous les Ming, je ne suis pas sûr, ou encore d'autres types de documents. Et au début des Qing, par exemple, Wang Shijun, qui est l'auteur d'un très connu, d'un recueil d'anecdotes, de notes, disons, de notes qui s'appelle le Chebei Otan, les propos décousus du nord de l'étang. Il y a là des allusions là derrière, mais je vous en fais grâce. Wang Chejun, donc, et c'est un ouvrage très important sur extrêmement riche et instructif sur, disons, le folklore de la vie et des examens et de la vie de l'administration. Wang Shijun raconte que, c'est pour ça que je le cite, dans les banquets entre collègues, également, les gens s'abstenaient de dire leur véritable âge et se faisaient passer pour plus jeunes qu'ils n'étaient. Pourquoi est-ce que je raconte tout cela? Eh bien, parce que, comme je le disais, Xu Zhetuo a fait la même chose. On le retrouve parmi les gens, dans la liste des gens dont il peut être établi et dont des auteurs comme Chen Changwen ont établi, en consultant divers autres documents biographiques, le Xuepu dans le cas présent, que leur âge de fonctionnaire, leur Guanyin, était inférieur à leur âge réel. C'est ainsi que Xu Zhetuo a déclaré qu'il était né en 1580, alors qu'il était de 1574. J'admets que c'est un détail, mais c'est un détail qui m'a paru significatif s'agissant de quelqu'un qui s'affirme aussi détaché des conventions du milieu bureaucratique. En tout cas, une fois le doctorat passé, et quel que soit l'âge qu'on lui donne, les choses vont aller assez vite pour lui. Tout de suite après sa réussite à l'examen, Xu Zhetuo est envoyé au censorat pour observer le gouvernement. Guancheng. C'est-à-dire pour suivre une sorte de stage. Destiné à familiariser les nouveaux docteurs avec les aspects concrets, disons, du fonctionnement de l'administration. Ce à quoi l'apprentissage du savoir indispensable pour réussir aux examens ne préparait évidemment pas du tout. Tout le monde passait par ces stages dans les administrations de la capitale, et sous les Ming, en tout cas, il ne durait pas très longtemps. 2 mois plus tard, en effet, Xu Zhetuo est sélectionné pour être magistrat de Shanghai. L'autobiographie ne nous dit rien, malheureusement, de la procédure qu'il a dû suivre pour recevoir cette nomination. Il est très probable qu'il a dû tirer au sort son poste, puisque cette méthode avait été instituée peu de temps avant, en 1594 exactement, dans le but de décourager les trafics d'influence et la corruption dans l'attribution des meilleures places. Et j'en avais parlé dans un de mes précédents cours, il y a déjà un certain nombre d'années, et j'avais montré que si le tirage au sort des postes de fonctionnaires a été, enfin si cette méthode donc, de désignation des fonctionnaires locaux a été très critiquée au début, ensuite c'est tout à fait entré dans les mœurs, et on a continué de procéder de la sorte, et en fait pour la quasi-totalité des postes de la fonction publique, jusqu'à la fin de l'Empire. C'est une méthode qui a ses mérites. En tout cas, et nous l'avons suffisamment vu l'année dernière, en tout cas, Shanghai, à la fin des Ming, était une sous-préfecture riche et importante, située stratégiquement, avec une population nombreuse de lettrés et de gens influents, avec un très gros quota fiscal, et par conséquent considérée comme difficile à gouverner. Que Xu Zhetuo ait été nommé à un tel poste quelques mois à peine après avoir passé le doctorat, mérite, je crois, d'être souligné. Sous la dynastie des Qing, en effet, une fois la période d'improvisation du début passée et une fois les procédures de nomination bien établies, sous les Qing, jamais un nouveau docteur, un débutant donc, ne se serait vu attribuer une sous-préfecture aussi importante que Shanghai comme premier poste. La vision conventionnelle des 20 dernières années du règne de l'empereur Wanli, donc avant 1620, est celle d'une fonction publique dans un état de totale déréliction, et plus spécialement d'une fonction publique dans laquelle un grand nombre de postes n'étaient tout simplement pas pourvus. Et l'explication donnée à cette situation, c'est ce qu'on a parfois appelé la grève de l'empereur Wanli. Il refusait de voir ses ministres, il ne lisait pas les rapports qu'on lui envoyait, et surtout il négligeait régulièrement de sanctionner, comme il était constitutionnellement indispensable qu'il le fasse, de sanctionner les nominations qui lui étaient soumises par le ministère de la fonction publique. Et de la même façon, il ne répondait pas aux mémoires des fonctionnaires qui demandaient à démissionner, si bien que certains d'entre eux finissaient par partir de leur propre chef, sans que les procédures de remplacement puissent être mises en route. Je parle de tout cela parce que tout ceci pourrait, à la rigueur, expliquer qu'on remplisse les postes vacants un peu à la va-vite, comme nous en donne l'impression la nomination de Xu Zhetuo à Shanghai, 2 mois après qu'il ait passé l'examen. Cela étant, je dois dire que j'ai toujours eu des doutes, sinon sur la réalité, du moins sur la gravité réelle de cette situation et surtout sur l'étendue effective du problème. Il y avait certainement des dysfonctionnements au niveau du gouvernement central, sous le règne de Wanli, et l'attitude exaspérée, plutôt que réellement paresseuse, ainsi que le comportement trop souvent capricieux de l'empereur Wanli, n'arrangeait évidemment pas les choses. Mais d'un autre côté, nous ne manquons pas de sources pour voir que localement, même s'il y avait beaucoup de problèmes, l'administration était loin d'avoir cessé de fonctionner, et que bien au contraire, on trouve de nombreux exemples de magistrats ou de préfets activistes poursuivant les efforts de réforme fiscale entrepris depuis le milieu du XVIe siècle, réussissant à mener à bien des travaux d'infrastructure, mettant toute leur énergie à combattre les situations de famine, et cela jusqu'à l'extrême fin de la dynastie, comme nous le verrons plus tard, et enfin faisant fonctionner l'appareil judiciaire avec une rigueur tout à fait remarquable. Et à ce propos, il ne faut pas oublier que le long règne de l'empereur Wanli, il a régné de 1573 à 1620, est en fait une période exceptionnellement productive en manuels de technique judiciaire et en commentaires pratiques du code pénal, comme nous l'avions vu en séminaire il y a quelques années. De tout ce que je viens de dire, et aussi bien les difficultés que les réalisations, la carrière de Xu Zhetuo donne beaucoup de témoignages intéressants. Il arrive donc à Shanghai au milieu du 11e mois lunaire 1610, ce qui techniquement serait en fait le tout début de 1611 dans notre calendrier, puisque l'année lunaire ne coïncide pas exactement avec l'année solaire. Il ne s'est d'ailleurs pas pressé, puisqu'il avait reçu sa nomination au 6e mois, et qu'il est d'abord passé par chez lui, à Chuzhou, donc beaucoup plus au sud. Cela dit, au moment où il arrive, il se retrouve directement en première ligne, et même très exposé. Je parlais un instant de réforme fiscale. Il n'est bien sûr pas question aujourd'hui d'entrer si peu que ce soit dans le détail de ces réformes qui sont parties des provinces au milieu du XVIe siècle, parfois même de certaines localités, où elles étaient entreprises à titre expérimental par des fonctionnaires activistes, et qui ont ensuite été progressivement étendues à tout l'Empire. C'est une histoire extrêmement complexe, dont le moindre intérêt n'est pas de montrer que des réformes décisives, cruciales même, et qui ont engagé en fait l'administration de l'Empire jusqu'à la fin, pouvaient tout à fait partir de la base de l'appareil administratif et ensuite se diffuser grâce à la circulation des idées et de l'information pour être en fin de parcours adopté par le gouvernement central et intégré à la législation nationale. Ce qui, en l'occurrence, parlant de réforme fiscale, n'a été complètement achevé que dans les années 20 du XVIIIe siècle. Mais ce qu'on peut malgré tout dire, très schématiquement, c'est que ce processus de réforme fiscale visait à la fois à simplifier et à rendre plus équitable et, accessoirement, plus rentable, un système qui se signalait précisément par sa totale confusion et par une quantité d'abus et de passe-droits. Et ceci concernait en tout premier lieu le système extrêmement compliqué et pesant de corvées ou de services, c'est-à-dire de prestations en travail et en service, ou alors de prestations en équivalent argent, l'administration se chargeant elle-même d'engager du personnel salarié. C'est ça en fait qui s'est répandu de plus en plus à partir du milieu des Ming. Les corvées donc par opposition à l'impôt foncier, qui est l'autre pilier du système fiscal chinois à l'époque impériale. En gros, le but des réformateurs était de répartir plus également le poids des prestations en travail, c'est-à-dire, encore une fois, et de façon de plus en plus systématique dès le XVIe siècle, des versements en argent qui remplaçaient le travail en personne. Et le répartir plus également signifiait faire aussi contribuer les grandes familles bénéficiant d'un statut académique qui jouissait d'une quantité d'exemptions en matière de corvée. J'avais pas mal parlé l'année dernière des privilèges fiscaux de l'élite académique sous les Ming, lesquels étaient particulièrement exorbitants dans cette région du Tiangnan dont nous parlons. Donc, quand Xu Zhetiao entre en fonction au tournant de 1610 et 1611, le gouverneur du Jiangsu, la province dont dépend Shanghai, est un certain Xu Minshi, qui a été nommé là un an plus tôt. Xu Minshi, pour être exact, je rappelle au passage que à strictement parler, il n'y avait pas de gouverneur de province sous les Ming. Attendez, c'est Xu Minshi. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas strictement parlé de gouverneur de province, mais l'administration à plusieurs têtes, à la tête des provinces, pouvait être coiffée par un personnage qu'on appelle en traduction le grand coordinateur et qui, en fait, porte le titre chinois de Xunfu, signifiant quelque chose comme... Xunfu, comme parcourir un territoire et littéralement caresser les habitants, c'est-à-dire en fait s'occuper de leur bien-être. Et les Xunfu étaient en fait des superviseurs, et dès le début des Qing, ils ont été en quelque sorte titularisés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des gouverneurs réguliers appartenant à la structure provinciale. Et le titre exact de Xu Minshi était Yintian Xunfu. Yintian, répondre au ciel, étant en fait le nom de Nankin, c'est-à-dire la capitale du sud des Ming, qui était également la capitale du Jiangsu. Bref, le programme de ce Xu Minshi, c'est justement d'égaliser les corvées, c'est-à-dire Tunyi. Avec ce mot très important, Tun, qui signifie égal, égalisé, et qui était employé aussi bien par le gouvernement dans ses programmes de réforme que par les rebelles quand ils disaient qu'il fallait abolir les privilèges. Donc, son programme, c'est d'égaliser les corvées, et par exemple, sa biographie dans la monographie provinciale du Fujian, la province dont il était originaire, dit simplement, à l'époque, les notables, c'est-à-dire les Tianshen, les gens qui avaient des degrés académiques du pays de Wu, c'est-à-dire du Jiangnan, ne contribuaient pas de corvée ou à la corvée. Xu Minshi demanda au trône à ce qu'ils soient égalisés, c'est-à-dire que leur charge soit égale à celle des autres, ce qu'il souhaite égaliser. Et une autre source dit que Xu Minxue a envoyé un mémoire dans lequel il demande également à Jun Yi à égaliser les corvées et que ce mémoire a été approuvé par l'empereur. Et c'est bien d'égalisation des corvées que parle l'autobiographie de Xu Zhetuo. Le problème est qu'il s'agit de mettre au point des listes révisées de contribuables où se retrouveront donc les notables menacés de perdre une partie de leurs privilèges et que la compilation de ces listes ne pourra pas ne pas susciter des difficultés avec eux. Et quand Xu Zhetuo arrive à Shanghai, tout reste à faire. Son prédécesseur, qui n'était qu'un fonctionnaire intérimaire, s'était bien gardé de prendre la moindre initiative. Et c'est maintenant à Xu Zhetuo de prendre les choses en main, d'autant plus que le gouverneur est furieux que rien n'ait été fait à Shanghai. Plutôt que de heurter les notables de front, alors qu'il connaît mal les lieux et qu'il n'est qu'un débutant, Xu Zhetuo va s'enfermer dans les bureaux d'une autre administration de la ville, il va se cacher en fait, pour mettre au point les nouvelles listes sans être gêné, et il ne retourne dans ses bureaux que 10 jours plus tard, après avoir tout bouclé et communiqué, sans en parler à personne, les documents à sa hiérarchie. Et il ajoute qu'il s'est certainement attiré beaucoup de haine, mais qu'il a la conscience tranquille. Cela dit, la grande affaire à Shanghai, comme dans toute la région, c'est non seulement l'égalisation des corvées, mais c'est surtout la collecte et l'expédition de ce qu'on appelle le tribut en grains, qui doit être, donc ces grains qui doivent être expédiés à la capitale chaque année par le Grand Canal. Et là, la description de Xu Zhetuo est d'un grand réalisme. Le tribut en grains, c'était d'abord une opération militaire, puisque c'était l'armée qui était chargée de prendre livraison et d'assurer le transport jusqu'à Pékin. Un régiment de la garde impériale de Nankin, donc encore une fois capitale du sud de la dynastie des Ming, un régiment de la garde impériale de Nankin débarque donc à Shanghai lorsque les opérations doivent commencer, c'est-à-dire au début de l'année, et ces soldats sont de véritables terreurs, la ruine des malheureux habitants de Shanghai. En outre, ils sont à coquiner avec une bande organisée de résidents vivant aux alentours des greniers où est stocké le grain du tribut en attendant d'être envoyé au nord, une bande organisée qu'on surnomme les rats de grenier, les Tsang Laoshu, dont le chef est appelé le censeur en chef, Du Tang Yushu, et qui vivent grassement de leurs malversations. Lorsque les opérations de paiement commencent, ce sont eux qui se chargent de mener les négociations avec les malheureux qui sont responsables de la livraison des grains de leurs communautés respectives. Et ces négociations sont interminables. Elles se déroulent en présence de dizaines de soldats qui festoient et boivent et mangent aux frais des contribuables. Et en plus, il faut graisser la patte à leurs officiers et ainsi de suite. Les sommes extorquées de la sorte sont ensuite partagées entre les rats de grenier et les militaires. Et ce n'est pas tout, les mêmes individus profiteront de la nuit pour mélanger le grain avec de la balle, ou de la sciure, ou du sable, ou même de l'eau. Et là, dit Xu Zhetuo, et il leur expliquera d'ailleurs, ce sont les soldats qui vont en pâtir eux-mêmes, lorsqu'ils devront livrer le grain à la capitale. Et il semble en outre que le grain était gardé, non pas dans le grenier officiel, mais dans des résidences privées, pour être justement accessible à ce genre de trafic, de manipulation. Bref, tout cela est absolument ruineux pour la population et en plus, dit-il, ça ne cesse pas d'augmenter année après année. L'attitude de Xu Zhetuo face à tout cela, en tout cas tel qu'il nous le raconte, est assez typique d'un certain type de fonctionnaire à la fois naïf, n'ayant pas froid aux yeux et décidé à faire régner la justice et à faire respecter le règlement et qui n'hésite pas à donner un coup de pied dans la fourmilière, même si ça doit leur valoir l'hostilité d'un grand nombre de personnes, à commencer par leurs supérieurs. Je ne dirais pas que c'est exactement un type littéraire, mais c'est bien plutôt un type professionnel, considéré comme un peu excentrique, que l'on rencontre justement dans certains écrits autobiographiques de fonctionnaires, dont les auteurs veulent montrer qu'il suffit d'avoir le courage et le sens de la justice. Mais pas seulement là. Certains, en fait, étaient connus, je veux dire, indépendamment des autobiographies, certains étaient connus du grand public pour être comme ça. Et là, évidemment, l'exemple canonique, c'est sans aucun conteste le fameux Rai Jue, qui, une quarantaine d'années plus tôt, avait mis la même région en ébullition en prenant le parti des petites gens. Très célèbre, Rai Jue. Et en particulier en décrétant que les contrats de dépendance, donc d'esclavage dont j'avais parlé l'année dernière, étaient illégaux. Ça avait d'ailleurs été une levée de boucliers de la part de tous les gens influents de la région, et il y en a beaucoup, si bien que Rajoué avait été promptement envoyé occuper une sinécure où il ne risquait pas de gêner quiconque. Mais Sujetio me fait surtout penser à l'un de mes auteurs favoris, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans le passé et sur qui je reviendrai certainement, qui est un certain Gao Tingya, qui a été en fonction au début du XIXe siècle et qui est l'auteur d'une autobiographie professionnelle, précisément, tout à fait passionnante et souvent assez drôle. Gao Tingyao aime lui aussi à se poser en justicier et en provocateur, et il décrit des scènes d'affrontement avec ses supérieurs, qui le trouvent très insolent et très sûr de lui, des scènes qui évoquent tout à fait dans leur style et dans leur narrativité, voire dans leur humour, celles auxquelles je vais tout de suite faire allusion chez Sujetio, Sujetio dont Gao Tingyao n'avait certainement jamais entendu parler. Quoi qu'il en soit, et pour revenir à l'administration du tribut en grain, Sujetio prend le taureau par les cornes. Il fait arrêter les rats de grenier et leurs censeurs en chef, il les fait boucler. Il interdit les banquets aux abords des greniers, il refuse d'offrir les cadeaux habituels aux officiers et de prétendre être leur grand ami, comme c'était l'usage. Et il fait un discours sur le front des troupes où il leur dit que tout ça ne va pas du tout. Il commence en disant « Je déteste l'arrogance militaire et je déteste encore plus vos chantages ». Il leur dit aussi, et c'est un argument qu'il répète plusieurs fois, il leur dit aussi qu'ils se causent du tort à eux-mêmes en acceptant du grain adultéré. Après tout, ils vivent de ce grain pendant le long voyage jusqu'à Pékin. Il édicte des règles strictes pour la collecte, le stockage et la vérification de la qualité des grains. Et il conclut sur ces mots. « Vous pouvez bien, messieurs les officiers, détester du fond du cœur ces nouvelles règles, mais il n'y a rien à faire. » Mais ça ne s'arrête pas là. Et en fait, les pages qui suivent relatent de façon circonstanciée tous les ennuis qu'on va essayer de faire à Sujetio. Les militaires ne vont évidemment pas le laisser s'en tirer comme cela. Et il est clair qu'ils sont allés se plaindre auprès du censeur en charge de superviser les opérations du tribut. Et lorsque Sujetio se retrouve face à ce dernier, à l'occasion d'une sorte d'audit des opérations en cours qui a lieu dans la préfecture voisine de Zhenjiang, il se fait hurler dessus parce que ses livraisons sont en retard, bien sûr à cause du sabotage direct des officiers, et en outre les bateaux ne sont pas encore arrivés. Et Sujetio aggrave plutôt son cas en se tenant bien droit et en répondant directement et franchement, alors que l'usage, il emploie le mot de « coucheux », l'usage dans le milieu, est de courber le dos et de ne rien contester. Seulement voilà, explique-t-il, il est un débutant qui n'a pas encore l'habitude, il ne voit pas le danger qu'il court en tenant tête à un censeur, bref, il est vraiment stupide, et il emploie ce mot très fort, qui signifie stupide. Autrement dit, ce n'est pas seulement le manque d'expérience, c'est dans sa nature. Il est naïf et justement, il est naturel. Et pour moi, c'est le côté un peu taoïste du personnage, qui revient d'ailleurs régulièrement dans le texte, et parfois d'ailleurs tout à fait explicitement, comme nous allons le voir. Quoi qu'il en soit, de retour à Shanghai, Sujetio a encore plusieurs réunions orageuses avec les officiers et même avec la troupe, pendant lesquelles il leur reproche leur sabotage et leurs exactions. Et dans l'autobiographie, les discours et les dialogues sont rapportés de façon extrêmement vivante et avec des touches de langage parlé. Et il s'est trouvé les arguments, visiblement, pour convaincre les gens simples. Et finalement, il arrive quand même à obtenir qu'ils chargent le grain sur les bateaux, puisque c'était la grande affaire, c'était de tenir les délais. Mais ensuite, il doit encore faire face à un début de rébellion des troupes cantonnées à l'intérieur même de la ville, cette fois, qui veulent venir en aide à leurs collègues des troupes de l'administration du tribut, lesquelles opèrent hors les murs. Heureusement, il arrive à les calmer, mais ça redémarre ensuite à cause d'agitateurs qui excitent cette fois-ci les soldats à proximité des greniers, si bien que Sujetio doit affronter une véritable émeute. Mais là encore, il réussit à s'en tirer en gardant son sang-froid. En bref, ce qui est intéressant dans tout cela, ce sont ces négociations constantes et ces menaces, toujours à la limite de l'affrontement violent, pour que l'administration continue de fonctionner. Cela étant, et même si, en fin de compte, le chargement des bateaux a été mené à bien dans les délais, mais vraiment à l'arraché, Sujetio n'en reste pas moins en butte à l'hostilité du censeur responsable du tribut, qu'il a encore une fois offensé en ratant un rendez-vous à cause du mauvais temps, sans parler d'un collègue magistrat jaloux qui l'accuse de chercher à se rendre populaire. Et le bilan de toute cette affaire, c'est qu'il est d'abord privé d'un an de salaire, il est vrai avec possibilité de pardon, s'il n'y a aucun problème avec les livraisons de tribut l'hiver suivant, et il n'y en aura aucun. Mais le censeur responsable du tribut le censure de nouveau, malgré l'appui dont il bénéficie de la part des responsables réguliers de la province, et il est finalement déchargé de ses fonctions avec une réduction de grade. J'ajoute, et c'est bien sûr un détail, mais quand on lit ce genre de sources, c'est toujours intéressant de trouver des confirmations, j'ajoute que la seule et unique mention de Xujetiu que l'on retrouve dans ce que nous appelons les annales véridiques du règne de Wanli, c'est-à-dire les chelous, qui sont réputés être des sources particulièrement complètes, donc chaque empereur, après sa mort, ont compilé des annales véridiques qui étaient des annales au jour le jour des activités de la cour et du gouvernement central et de l'empereur lui-même. Donc, la seule mention de Xujetiu qu'on trouve dans les annales véridiques de Wanli, et c'est normal puisque ce n'était après tout qu'un modeste magistrat, est justement à propos de cette affaire. Vers la fin de 1610, un des deux vice-ministres des Finances se plaint bruyamment dans un mémoire des retards dans le fonctionnement du tribut, retard dans la collecte, retard dans le transport, retard dans le retour des bateaux à vide, etc. Et fait à ce propos état des dénonciations du censeur du tribut à l'encontre de Xujetiu et de son collègue de la sous-préfecture voisine de Qingpu. Et donc, dans cette entrée assez brève du chelou, les deux magistrats se font effectivement priver d'un an de salaire. L'aventure shanghaïenne de Xujetiu s'arrête donc là, après à peine plus d'un an dans ses fonctions, les premières qu'il ait jamais exercées donc. Ça valait la peine de s'y intéresser un moment, je crois, d'abord comme témoignage sur le fonctionnement du tribut, je veux dire premièrement sur le désordre incroyable qui régnait sur place, et d'autres sources en parlent, mais dans le langage bureaucratique conventionnel, alors qu'ici on a une vignette extrêmement réaliste. Témoignage également sur la situation inconfortable, pour dire le moins, des fonctionnaires locaux face à une soldatesque incontrôlable et toujours prompte à s'agiter. Et nous avions vu l'année dernière qu'après la conquête mandchoue, ce sera encore bien pire, toujours dans la même région. Et ensuite, comme témoignage sur la façon dont tout cela était suivi de près par les autorités supérieures et par la cour, comme le confirme le passage des annales véridiques auxquelles j'ai fait allusion, et même l'empereur. Ce qui invite une fois de plus à se méfier des considérations habituel sur la quasi-absence de gouvernement à la fin du règne de Wanli. Et d'autre part, ces quelques pages de Xujetiu sur son premier poste offrent un contraste tout à fait intéressant avec ce qu'il va avoir à dire de sa deuxième magistrature, car là, il va se tirer avec les honneurs d'un poste où il aura passé plusieurs années, et je dirais que le récit qu'il en donne de cette deuxième magistrature offre, par contraste avec le récit de Shanghai, un mélange assez surprenant de décontraction et d'efficacité. Après avoir quitté Shanghai au début de 1612, donc, Xujetiu retourne au pays natal, au Zhejiang. Mais après quelques mois de retraite, il reprend la route pour Pékin afin de solliciter un nouveau poste. Ce qu'on comprend, mais le texte est assez allusif, ce qu'on comprend, c'est que c'est par piété filiale, par devoir envers ses parents, car ceux-ci n'ont pas encore été anoblis. Qu'est-ce à dire? Eh bien, depuis la dynastie des Tang, et même avant, les fonctionnaires méritants pouvaient demander l'attribution de titres honorifiques de fonctionnaires ou d'épouses de fonctionnaires à leurs parents, voire à leurs grands-parents et arrière-grands-parents, ou même à leur épouse principale et à ses ascendants. Et ces titres, qui étaient décernés par édit impérial, pouvaient être hérités par leurs enfants. Ce système était appelé Fongzheng. Fong étant le mot. Fong signifie attribuer un fief à l'origine. Donc, Fong est le mot qu'on employait quand il s'agissait de donner ces titres à des parents encore en vie, alors que Zheng était employé lorsqu'il s'agissait de parents décédés, à titre posthume. Et il y avait au ministère de la fonction publique un bureau spécial qui ne s'occupait que de ces dossiers. La réglementation là-dessus était extrêmement complexe et sans cesse révisée, et je n'ai pas de raison évidemment de m'y attarder ici, c'est d'ailleurs d'un intérêt limité. Ce qui importe en revanche, et qui est intéressant, c'est qu'on peut voir dans une quantité de sources, en particulier biographiques, que ces appellations honorifiques conférées par l'empereur étaient considérées par tout le monde comme étant de la plus haute importance. À la fois parce que c'était une manifestation de piété filiale de la part de celui qui en obtenait de l'attribution, et parce que ça comptait beaucoup dans un contexte où les familles de l'élite faisaient tout pour renforcer leur prestige au sein de leur communauté. C'était donc une affaire de compétition sociale. Être ou avoir été fonctionnaire sans avoir pu honorer ses ascendants de cette façon, c'était, si vous voulez, une tâche sur votre réputation. Donc, sur le chemin de Pékin, pour solliciter un nouveau poste, Xu Zhetuo déclare à peu près à un ami « Mon père et ma mère n'ont pas encore été anoblis, comment dès lors pourrais-je vivre en m'en désintéressant ?» Ce poste, il va donc l'obtenir à la fin de l'année de cette année 1612, et ce qu'on voit à partir de là fait assez penser pour le coup à cette situation de laisser-aller dans la gestion du personnel administratif dont j'ai parlé tout à l'heure. Xu Zhetuo est nommé auprès du chef de l'administration de la province du Ruguang, autrement dit la très grande province qui correspond au Hubei et au Hunan actuel. Donc le chef de l'administration, c'est le Buzhengse, bon, enfin ça, ce sont des termes techniques. Et il est nommé dans un poste tout à fait subalterne qu'il appelle, ou plutôt qu'il écrit, Tianqiao. Mais tiens, il l'écrit comme ça. J'ai cherché dans tous les dictionnaires, mais en fait, où on ne le trouve pas. Mais en fait, il est évident qu'il faut le lire avec quasiment la même prononciation. Tianqiao. Et ça, c'est un titre de fonctionnaire tout à fait connu, et enfin attesté, et qui correspond tout à fait à la situation. Un tianqiao, en effet, c'est littéralement un correcteur d'épreuves, c'est donc une sorte de secrétaire chargé de vérifier les documents. Et sous les Ming, il y en avait un certain nombre auprès des chefs des gouvernements provinciaux, et ils avaient le rang 9B, autrement dit le rang le plus bas dans la hiérarchie des fonctionnaires titulaires. Xu Zhetuo dit lui-même que c'est un poste sans affectation, un sanje, c'est-à-dire en fait une sinécure. Et ce qui est sûr, c'est qu'une fois arrivé à Wuchang, donc la capitale du Ruguang, qui correspond à l'actuelle ville de Wuhan, Xu Zhetuo n'a strictement rien à faire. Et voici d'ailleurs comment il décrit ses journées. Il n'y avait absolument rien à faire. Jour après jour, je prenais une jarre de vin et je grimpais au sommet de la pagode de la Grue Jaune. Et là, je buvais à satiété. Et une fois que j'étais sous, je m'étendais complètement nu à côté d'une petite statue de Chunyang. Et son biographe ajoute qu'il ronflait comme le tonnerre. Mais ça, c'est un ajout. Quand je sortais de ma torpeur, la lune était déjà levée, le vent soufflait et il y avait de la rosée partout. Je remettais mes vêtements en ordre et je rentrais. J'avais complètement perdu la notion d'une carrière avec ses hauts et ses bas. Je ne savais plus ce que c'est que l'activité et la retraite. Je parlais de taoïsme et avec cela, nous y sommes en plein. La pagode de la Grue Jaune, d'abord, donc Huang Haolo, qui existe depuis l'époque des Trois Royaumes et a été reconstruite à de multiples reprises, est un des hauts lieux du taoïsme dans la vallée du Yangtze. Et j'ajoute que la pagode qu'on voit aujourd'hui à Wuhan, non loin du pont sur le Yangtze, a été reconstruite plus ou moins à l'imitation en 1985, mais avec une structure en béton armé. C'est de là que Lu Dongbin, un personnage hautement pittoresque qui est devenu l'immortel le plus célèbre du panthéon taoïste, c'est de là que Lu Dongbin serait monté au ciel. Or, Chunyang, dans le texte dont je viens de lire un extrait, Chunyang est un des noms de Lu Dongbin. Je me demande en fait s'il n'est pas permis de dire que l'état de coma éthylique, d'inaction totale et de désintérêt absolu pour les choses de ce monde, dans lequel se décrit Xu Zhetuo, représente en quelque sorte le degré zéro du détachement taoïste. Je veux dire, sans même éprouver le besoin d'écrire des poèmes sous l'emprise de l'alcool, comme Lipo, le célèbre poète des temps, Lipo que Xu Zhetuo considère comme son modèle et à qui il dédiera d'ailleurs un sanctuaire pendant son séjour à Tianxia, un sanctuaire qu'il appelle le Taibo Tang, Taibo étant évidemment le surnom de Lipo. Nous voilà donc fort loin des péripéties haletantes et de la pression quotidienne du poste de Shanghai. Mais après quelque temps, Xu Zhetuo va être obligé de reprendre de l'activité. Et là encore, les conditions dans lesquelles il est devenu magistrat de la sous-préfecture la plus importante du Rouen donnent une certaine impression d'improvisation. Cette sous-préfecture, c'est Tianxia, qui correspond donc à Wuchang, qui est la capitale, disons, de la préfecture de Wuchang. Et comme le poste se trouve vacant, le gouverneur ordonne à Sujetiu d'y aller, Sujetiu qui est en train de se saouler au sommet d'une pagode, d'y aller, ce à quoi d'ailleurs il essaye de se soustraire avec la dernière énergie. Et une fois en poste, il prend les choses de façon, là encore, un peu taoïste, en traitant les affaires à mesure qu'elles se présentent. Et en fait, il a une curieuse impression d'inactivité dans ce Yamen, laquelle s'explique lorsqu'il découvre qu'il y a des fonds importants qui restent inemployés, parce que, pour résumer une histoire un peu compliquée, parce que les commis en charge des finances les mettent de côté pour rembourser les déficits de l'année précédente, eux-mêmes dus à leur malversation. Sujetiu, pourrait-on dire, est alors repris par l'activité. Il fait en effet faire un audit approfondi des comptes de Tianxia et réussit à tout remettre en ordre. Et bien sûr, les commis sont punis. Et la suite contient beaucoup d'épisodes de ce genre qui seraient évidemment beaucoup trop longs d'exposer en détail. Ce que je voudrais simplement souligner, et que je trouve intéressant, c'est, parce que ça ne laisse pas de surprendre, tant c'est éloigné de l'image classique du magistrat surmené, il est vrai que cette image a surtout été popularisée par les fonctionnaires modèles des Qing dans leur manuel. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que d'un côté, les quelques années que Sujetiu va passer dans le poste de Tianxia sont indéniablement un succès, et que d'un autre côté, il explique comment il réussit à se réserver beaucoup de temps libre pour ses distractions et ses méditations, pour sa vie spirituelle en quelque sorte. Ce qui semble clair en tout cas, et c'est souligné par le préfacier de l'autobiographie, c'est que la personnalité de Sujetiu le poussait à temporiser, à venir voir, à se faire tranquillement une opinion, mais une fois qu'il avait pris une décision, il agissait vite et il était très efficace. Je disais que la réussite de Sujetiu à Tianxia est indéniable. Déjà, il y a le fait qu'il a été titularisé dans le poste à la fin de 1613 parce que les habitants en avaient fait la demande instante auprès de ses supérieurs qui ont transmis à la capitale, et alors qu'il avait un mauvais dossier à cause de ses problèmes à Shanghai. Nous savons aussi qu'au terme de ses trois premières années, il a rédigé une sorte de bilan destiné à être présenté au gouvernement central à l'occasion de l'audience avec l'empereur à laquelle il était tenu de se rendre au bout de 3 ans, donc comme c'était la règle sous les Ming. Et ce dossier qui est intitulé Tianxia Tishe, donc rapport sur Tianxia, semble avoir été publié, mais malheureusement, il n'existe plus aujourd'hui. En 1616, Sujetiu est recommandé comme fonctionnaire exceptionnel, comme Zhuoyi, et il est promu à un poste métropolitain l'année suivante. Et ce qui se passe ensuite, j'en parlerai la prochaine fois. J'ajoute qu'il a également droit à une courte notice, on ne peut pas vraiment parler d'une biographie, dans la monographie locale de Tianxia, que j'ai consulté dans son édition de 1869, une notice courte mais très élogieuse, encore qu'elle n'évoque que ses réalisations en faveur de l'école confucéenne et pour améliorer le niveau des lettrés locaux. Or, comme on le voit dans son autobiographie, il a fait beaucoup plus que cela. Par exemple, il décrit de façon très précise la façon dont il a remis de l'ordre dans les finances et dans les procédures fiscales de la sous-préfecture, ainsi que les longues discussions qu'il a avec ses supérieurs et ses collègues sur les réformes souhaitables concernant le tribut en grain. Là encore, le tribut en grain, mais le système du tribut au Rouen était très différent de celui... c'était pas du grain qui était destiné au Grand Canal et à la capitale. Enfin, peu importe. Il parle aussi de la construction d'un nouveau grenier à Wuchang, etc., etc. Toutes choses qui montrent, encore une fois, qu'à cette époque, l'État des Ming possédait encore de grandes capacités d'organisation et d'intervention dans les provinces en tout cas. Et cela est encore confirmé par la principale entreprise à laquelle Sujetiu est associé pendant ces années, à Tianxia, entreprise dont on lui a en fait confié l'entière responsabilité, bien qu'elle dépasse largement le cadre de sa sous-préfecture. Il s'agit de la reconstruction, et en partie de la construction tout court, entre 1613 et 1615, d'un vaste dispositif de digues sur la rive sud du Yangtze, en amont et en aval de Wuchang, digues dont certaines servent aussi de route et sur laquelle la monographie locale de Tianxia et les documents du Roubaix nous donnent une quantité de détails qui confirment parfaitement le récit de Sujetiu. J'avais étudié cette affaire d'assez près dans un séminaire, et je n'y reviens donc pas aujourd'hui, sinon pour mentionner le fait que aussi bien la monographie de Tianxia que l'autobiographie de Xu Zhetuo confirment que l'administration provinciale des Ming, à cette époque, était capable de réaliser des projets de cette envergure, financés par des contributions spéciales levées sur la population locale, quand ces projets étaient poussés et soutenus par des grands notables influents, des anciens hauts fonctionnaires qui disposaient de solides relations au gouvernement. Et dans le cas présent, il s'agit d'un général très connu, Xiong Tingbi, qui était originaire de Tianxia et qui se trouvait là à ce moment-là. Et il est caractéristique de voir que dans ces sources bureaucratiques, si vous voulez, la monographie locale, comme la monographie locale, le nom de Xu Zhetuo n'apparaît même pas. Alors que l'autobiographie montre qu'on lui a confié la maîtrise de toute l'opération et que c'est lui qui était sur le terrain. Je parlais des périodes de loisirs que Xu Zhetuo affirme avoir réussi à se ménager en dépit de sa charge. En fait, c'est surtout vrai après l'achèvement des grands travaux dont je viens de parler, c'est-à-dire en 1616, où il y a un chapitre très court, et il explique quand même que, comme il a l'habitude de se lever avec le chant du coq et que les affaires de la sous-préfecture sont de moins en moins lourdes, dit-il, tout est réglé vers midi et il peut alors consacrer l'après-midi à boire. Il reprend ses beuveries au sommet de la pagode, à se distraire et à méditer. Et c'est alors qu'il se lance en particulier dans l'aménagement du sanctuaire dédié à Lipo. Nous verrons la prochaine fois qu'arrivé à Pékin, Xu Zhetuo, qui n'a pas les relations nécessaires pour se voir offrir un beau poste à la capitale, va se retrouver une nouvelle fois dans une sinécure. Mais après quelques années de purgatoire, il va de nouveau être plongé dans le tourbillon de la politique, et cette fois-ci comme spécialiste recherché des affaires militaires. Et son témoignage prend alors une nouvelle dimension, en même temps que sa vie personnelle s'enrichit de nouvelles expériences et de nouvelles réflexions, ou si vous voulez, que son apprentissage se poursuit. Et c'est donc de cela que je parlerai dans 8 jours. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.